Bonjour et bienvenue sur Éphémère, nous sommes le samedi 11 novembre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui? Hein? Comment ça?
Non!
Mais si, recommence!
Maintenant!
Le supplément week-end avec l'actu BD, télé, BD et baston! Ça c'est du sport, à 13h les résultats en direct des stades et des vestiaires et de l'infirmerie!
Et ensuite?
Et ben à 15h du mix avec du reggae, Zarma Farai, Poupa, Christopher in the place! 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, c'est du rock matinée de faits divers, 19h Happy Raw, 20h jusqu'à 21h30 c'est la CTO Experience, et après c'est que du mix avec je crois de la drum and bass en direct jusqu'à 5h du matin sur la poubelle des radios. Et ceci dit, ben aujourd'hui c'est le 11 novembre, n'oubliez pas, c'est la fête de l'armistice, donc ayez une petite pensée émue.
FMR FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Je voulais dire, ayez une petite pensée émue pour toutes ces radios qui croient encore avoir un esprit. Je veux dire que face aux nôtres, ils sont un petit peu loupés. Non, allez, c'est un peu méchant. Quand même, 9 millions de victimes. 5,5 millions de victimes en France. Et je crois que c'était 2 millions de morts, la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de quoi rigoler.
Ah, bon, d'accord, ok. Bon,
on peut se le permettre un peu. Il paraît que FMR fait bientôt ses 25 ans et comment vous dire, la programmation va être vraiment 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 très loud et on sera au rendez-vous. En attendant, Compies, Clothes and Streets of Hearts.
Just a kiss won't tell.
mais désolé Thomas, je sais, j'ai encore pas monté correctement ton micro, on a... Arrive.
Ouais, mais ça c'est une habitude.
Tu remettrais en cause ma qualité de production ?
Tout à fait.
Bon, d'accord, ok, puisque c'est comme ça, c'est toi qui attaques les news.
Oui, les news, eh bien, on va... Ben, en fait, c'est une revue de presse, puisqu'on va parler des 30 ans du magazine Première, magazine de cinéma qui fête ses 30 ans, donc ce mois-ci. C'est le numéro 350.
Comptez le nombre de fois qu'il a été capable de dire 30 ans dans cette phrase, et je suis sûr qu'il fait pas mieux pour les 25 ans de FMR.
Justement, pour cette émission, nous allons aussi parler des 25 ans d'FMR, donc FMR qui fête ses 25 ans, 25 années d'FMR.
Voilà.
Alors, c'est le numéro 357, 2 euros de Première... Et je ne vais pas mentionner la couverture car ça donnerait la réponse du top 5 que nous allons faire tout à l'heure.
D'accord, mais... on se prépare.
Donc en fait il s'agit de, bah de des rédacteurs de Première qui ont demandé aux lecteurs d'envoyer leur classement leurs 30 premiers films des 30 dernières années, selon eux les 30 meilleurs films qui jugent dignes d'apparaître dans le classement. Et donc nous allons pouvoir faire le... Bon, d'ailleurs on va y aller franco en citant les 30 films.
Bah moi je vais regretter parce qu'il y a sûrement pas quand même à mon avis le film de genre absolu avec une réalisation et un casting absolument fabuleux. Un flic à la maternelle.
Je vois pas.
Ouais. Non mais laisse le temps que du sport s'installe, que sinon c'était... si on le fait pas à deux.
C'est... Oui, c'était un pari pour placer un flic à maternelle dans l'émission quoi.
Alors j'aurais dû tiens.
Alors on peut commencer par le classement de la 20e place à la 30e place. Donc en 30e position, il y a Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. D'après eux, il est classé qu'au 30e. Enfin bon, s'ils veulent. Taxi Driver 29e, 28 Blade Runner.
Ah.
Oui, voilà. Ah, on commence à comprendre.
À noter qu'il y a.
À noter que Première est quand même un magazine généraliste. Ah,
oui. Et que Première, que Blade Runner, on a vu une édition DVD. Ne vous précipitez pas dessus de suite.
C'est la Director's Cut, mais il y a encore un gros pack avec des bonus exprès, etc.
Qui va arriver l'année prochaine. Hein.
Voilà. Donc, on en était à 28 Blade Runner, 27 Forrest Gump, 26 Lost in Translation, 25 Scarface, 24 Le Secret de Brokeback Mountain. Qui est classé quand même avant Taxi Driver et Voyage au bout de l'enfer, donc voilà. 23, La leçon de piano, 22, Danse avec les loups, 21, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et en 20e position, Elephant Man. De la 19e à la 10e place, Kill Bill 1 et 2 de Tarantino. 18, Mulholland Drive, 17, Shining, 16, Gladiator, 15, Edouard aux mains d'argent, 14, Le silence des agneaux, 13, Les affranchis. Requiem for a Dream en 12e position, Seven en 11e. 10e position, on entre dans le top 10, Million Dollar Baby de Clint Eastwood.
Toujours pas de film français, étonnamment.
Non. Moi, j'aurais pas mis Million Dollar Baby dans plein de chefs-d'œuvre qui sont derrière, mais bon. 9e, La liste de Schindler. On le tourne la page. 8, Titanic. 7, Il était une fois en Amérique. 6, Fight Club. Et là, on entre dans les 5 derniers.
Top 5. Numéro 5.
C'est un film avec des hélicoptères de Francis Ford Coppola.
Apocalypse Now.
Bravo.
Numéro 4.
Premier film français du classement.
Amélie Poulain.
Numéro 3.
C'est un film avec des droïdes.
Non, pas Star Wars, non.
Si, les 6 épisodes Star Wars. Oh 3.
Numéro 2.
C'est un film avec un anneau très célèbre.
Avec des Frantique.
Non, avec des hobbits et des nains et des elfes.
Des bits et des nains.
Anal Fantasy 6.
C'est pas le Seigneur des Anus non plus. C'est le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson.
Numéro 1.
Parmi tous les chefs-d'œuvre qu'on a cités, il y en a. Bon, il y a un film qui revient tout le temps pour les cinéphiles, qui est devant Star Wars, devant Seigneur des Anneaux, etc. Non, vous trouvez pas ?
Pulp Fiction.
Gagné !
Bah, facile.
La couverture, c'est Alain Chabat déguisé en Uma Thurman.
Ouais, et à l'intérieur, il fait Amélie Poulain.
Oui, à l'intérieur, il fait aussi Amélie Poulain.
C'est ça, je veux voir la photo de presse.
Et à noter aussi, là, j'étais en train de jeter un peu le magazine juste avant qu'on prenne l'antenne. Et il y a une interview de Michel Oslo. Alors là, tu peux enlever la musique okay. du top 5 parce que
non, non, il faut d'abord signaler donc la source. Il s'agit donc.
Oui, c'est le top 30 établi par les lecteurs de première.
Ouais, ouais, ça, voilà. ça indique un
c'est
petit peu.
C'est pas par la rédaction, c'est
le lectorat et l'état d'esprit un petit peu des gens qui écrivent dedans, quoi. Oui. C'est-à-dire que on oublie le cinéma à partir des années 60, 70.
Ah non, mais là, c'était le deal, là. C'était les 30 dernières années, hein.
Ouais, 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 mais bon, généralement, hein. Oui. Ce qu'on a pu voir, quoi, c'est que bon, ça a tous été, à l'exception de quelques films, d'ailleurs, 3 ou 4 films,
des années 70.
Qui n'ont pas connu de succès. Ouais. Tous les autres, c'est des super blockbusters, de toute façon, hein, ouais. qui ont engrangé un paquet de dollars assez incroyable. Il y en a 2 ou 3, à la limite, qui sont, bon, qui sont passés un petit oui. peu à l'as, hein. Mais c'est tout, quoi. Sinon, bon, bah, c'est plutôt un choix de jeune génération.
Oui, et puis privilégier.
Il
n'y
a pas de mémoire
cinéphilique,
hein. Que dalle, hein. C'est, bon, voilà, hein, c'est le spectacle immédiat,
bah oui.
quoi.
Quand tu vois Million Dollar Baby classé dans les 10 alors que t'as ouais. t'as Voyage au bout de l'enfer qui est que 30e, d'accord. Alors là je disais oui j'ai regardé un peu.
Ah puis Amélie Poulain comme film français bon.
Désolé quand même il y en a des films français bon des années 30 dernières années.
Ouais quand même. Ouais.
Alors je disais Michel Oslo qui a été interviewé à l'occasion d'Azur et Asmar dont on a parlé la semaine dernière. Et il notait justement les difficultés qu'il avait eues pour vendre son film à l'étranger, puisque c'est une chose dont je n'ai pas suffisamment parlé la semaine dernière, c'est qu'il y a beaucoup de passages en langue arabe dans le film qui ne sont pas sous-titrés. Et ça, c'était très intentionnel de la part de l'équipe de création pour justement que les gens qui ont, on va dire, des préjugés sur la culture maghrébine et tout, ressentent toute la musicalité, la sonorité de la langue arabe. Et justement, ça fonctionne très 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 bien dans le film. Et alors justement, il y a une, il peut pas le sortir aux États-Unis son film, car
parce que ça parle arabe. Oh non.
Pas seulement pour ça,
il y a un message d'Al-Qaïda caché.
Il est probable qu'aucun major n'en voudra. Comme me l'a dit un journaliste à Cannes, dit Michel Oslo, il faudrait supprimer la première séquence qui voit la nourrice allaiter Azur et Asmar. Le magazine The Hollywood Reporter, dans un article par ailleurs élogieux, a rapporté que cette séquence était un défi à l'Amérique. Puisqu'en fait, la nourrice est en train d'allaiter à la fois le petit arabe et le petit azur. Et alors justement, je disais pour la langue arabe non sous-titrée, donc justement, il avait voulu sortir le film en allemand, mais il voulait doubler tous les passages, y compris les passages en langue arabe. Et la décision m'appartenait, dit-il, ce fut cornélien, j'ai refusé, le producteur et les distributeurs français pour l'étranger vont devoir rendre l'argent versé. D'ailleurs, il les en remercie, puisque il a fallu rendre le pognon, puisqu'ils avaient été préachetés, et comme les Allemands n'ont pas réussi à obtenir que le film soit entièrement doublé en allemand, ben voilà, c'est niet au final. Et donc voilà, donc il veut faire la tournée dans les différents festivals des pays du Maghreb, et les autorités et les producteurs et distributeurs locaux sont très enthousiastes.
Bah tant mieux, tant mieux.
C'était le numéro 357 de première, qui fête ses 30 ans, 2 euros.
Je crois qu'on a une nécro.
Oui, nécrologie, la mort du compositeur Basil Poledouris.
Ah bah non. J'en ai une autre, mais après.
Ah, c'est le même ou non?
Non, non, pas
ah,
du tout.
D'accord. Alors, qui est Basil Poledouris? On va rappeler quand même La chair et le sang de Paul Verhoeven.
Ah ouais, ouais.
Le barbare de Milius.
On sait de quoi il est mort?
Non. Enfin, ah, bon. Ou alors j'ai pas su le retenir.
Ah, peut-être qu'il n'a pas supporté le choc de savoir Schwarzy réélu gouverneur.
Peut-être. En tout cas, il est mort assez jeune. Il avait 61 ans seulement. Il avait fait la musique de Robocop, de Starship Troopers également. Qui est bon, voilà. Il avait plus fait beaucoup de BO depuis quelques temps, depuis le début des années 2000 en fait. Forcément, on revenait à arrêter de faire des bons films. Donc voilà. Et il rejoint donc au panthéon des compositeurs morts un autre compositeur de Verhoeven qui avait illustré la musique de Total Recall, qui est Jerry Goldsmith, qui est mort également. Il y en a plein, Michael Kamen. Sachant qu'Ennio Morricone est toujours vivant, c'est
oui.
un truc qu'on oublie souvent.
Pas voilà. Les remixeurs en tout cas, hein. Ils s'en souviennent après coup, après. Ah, on a sorti un remix et non, il est.
Je suis toujours là.
Alors vous êtes trompé d'une demi-note. Ok.
Et on va enchaîner avec une petite news qui fait très 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 plaisir, puisque les fans de John Carpenter, de Big John, qui attendaient frénétiquement l'arrivée en DVD, enfin une édition DVD potable et conséquente de L'Antre de la Folie sans chef-d'œuvre des années 90, voilà, on va pouvoir se précipiter sur cette édition DVD de chez Metropolitan en janvier. Donc avec des bonus, commentaires audio, etc. Donc ça va valoir son pesant de cacahuètes. Donc de toute façon, L'Antre de la Folie, on en parle tout à l'heure dans la rubrique cinéma.
Du sport avec une bio, une nécro, une...
Un truc qui finit par O.
Ouais, mais on en parlera après, hein, c'est la mort de Jack Palance.
Oh merde.
En fait, ouais.
D'accord, ok.
J'enchaîne sur les BD, c'est juste que je me suis, enfin voilà quoi, ça m'arrive, confondu sur les sur les CD quoi.
Non mais un supplément week-end, on étale les nécros en fait.
Penses-tu? Oh, franchement, tu es une mauvaise langue accomplie quoi. On va commencer avec une bande dessinée de Li Yao, La quête de l'esprit céleste, tome 2, Le chasseur de vie. C'est Chiao Pan. On avait beaucoup aimé le premier tome.
Oui, enfin, beaucoup aimé.
On avait trouvé que c'était franchement divertissant et très agréable à lire quand même.
Divertissant,
Voilà. Voici donc le deuxième tome qui conclut cette histoire qui est assez hilarante. Donc je reprends. C'est l'histoire d'un fils à papa d'un chef d'une école de Kung-Fu, Tiao Wei, qui a fugué direction les grandes montagnes sur Terre, souhaitant apprendre d'un sage corruptible comment être un maître sans trop se crever. Il se fait poursuivre par la faction rivale et absorbe la puissance d'un élixir d'immortalité par hasard et surtout par erreur.
Attends, je complète. Parce qu'en fait, le mec, il préfère passer son temps à jouer aux jeux vidéo et à faire du skate dans la rue plutôt qu'aller entraîner son énergie céleste. Puisque le truc, c'est que plus tu entraînes ton énergie céleste, et plus tu gagnes des. C'est comme le karma en fait.
Des points de vie quoi.
Voilà. Et à un moment donné, dans le bouquin, il fait rien de sa vie ce mec. Et puis il décide d'aller, tiens, on va aller chasser l'esprit céleste qui pète dans les montagnes. Et puis tout d'un coup, par un concours de circonstances totalement fortuit, il se trouve en possession de cet oiseau. Ça lui fait gagner 60 ans d'entraînement. Il fout rien et hop.
Ouais, super. Bon, faut rappeler donc qu'il a plutôt tendance à jouer aux jeux vidéo et à faire du skate. Et je rappelle qu'on est dans la Chine médiévale.
Oui.
Alors évidemment, ça la fout mal parce que certains sont capables de tuer pour un tel élixir. Merde, 60 ans d'entraînement, putain, chier, crotte quoi. Et du genre, bien plus sérieux en kung-fu que Chiao Wei. Le clan du dragon volant, adversaire de son père, cheval céleste, ils ont vraiment des noms qui me font péter de rire, le moine, chasseur de vie et divers mercenaires qui passaient par la montagne à cheval. Oh et... Bon, alors, si on devait tout faire dans les règles. Alors, deux amoureux qui s'ignorent, donc forcément, au début, ils se détestent, deux clans ennemis, un combat spectaculaire, un grand démon, une union sacrée et vécu heureux pour très longtemps puisqu'il n'est pas loin de l'éternité. Ouais, c'est un film de... C'est un mélange de Wong Kar-wai, Jackie Chan et tout ça, quoi. Tout le monde une fois. Bien empaqueté, une bonne compile, quoi. Après, bon, je vais vous laisser découvrir cette histoire qui massacre les films de Kung Fu pour notre plus grand bonheur, dans un graphisme qui est quand même assez chiadé et bien foutu, et des rebondissements qui ne sont pas que là que pour une chose, sinon autrement que placer un gag. Et le problème est là, si je commence à trop résumer le second tome, je n'aurai plus le plaisir de la surprise, et c'est celle de vous faire attaquer en embuscade par un clan de kung-fu qui veut vraiment vous passer à tabac. Le tout sur une reprise dance de Kung-Fu Fighting. Je ne l'ai pas retrouvé par hasard. Enfin non, j'ai pas osé la programmer plus exactement. La quête de l'esprit céleste, tome 2. Le chasseur de vie de Li Yao, et c'est aux éditions Chiao Pan, dont on va bientôt recevoir l'éditeur sur cette antenne, je crois même à la fin du mois. Je vous mets dans l'ambiance. Il s'agit d'un bouquin absolument superbe d'Edouard Brassé, l'encyclopédie du merveilleux, tome 3, des peuples de l'ombre. C'est paru dans la collection Fantasy chez le Pré-Auclair éditeur. Et c'est un très 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 beau bouquin. Bon, alors vous allez me dire, quel intérêt d'avoir son bouquin chez soi? Des fois, quand on rentre très tard, on coupe par des petites rues mal éclairées et on croise des individus bizarres. Le genre qu'on ne rencontre que vraiment seul et que du coup ce raccourci que vous ne trouverez jamais, eh ben vous allez le maudire. Si par hasard vous rentrez chez vous vivant, vous dites que la bestiole que vous avez rencontrée, ben justement, vous l'avez déjà vue quelque part et c'est sûrement dans ce bouquin. Sûrement dans l'encyclopédie du merveilleux des peuples de l'ombre universellement redoutés sous les apparences horrifiques des sorcières, fantômes, diables, démons, vampires, loups-garous, cauchemars, incubes, succubes, chasses fantastiques et autres incroyables dénominations, des moyens de s'en préserver, de se préserver, de les chasser ou de conclure avec eux à ces risques et périls divers pactes et alliances. Je vous jure, en quatre lignes, c'est le titre complet du bouquin. En ouvrant ce magnifique relire, vous explorez la nomenclature très précise où l'on apprend par exemple que le croque-mitaine est un terme qui a été créé en 1820, que les trolls, malgré leur intelligence très limitée, raffolent des énigmes, que les poltergeists sont capables de véritables pluies de cailloux mais éviteront de toucher un humain vivant, que le Sleepy Hollow du fameux film Le Chevalier sans tête est d'origine irlandaise et que l'école publique existe dans la nécromancie, ou du moins ça a existé en Espagne au 14e, 15e siècle. Bref, on feuillette avec passion cet ouvrage très bien présenté, riche en textes et aux illustrations soigneusement choisies, avec son catalogue de peuples qui sont regroupés par spécialité, c'est-à-dire la peur, la mort, les cimetières, les métamorphoses, l'enfer, les sorciers. Et puis finalement, vous vous dites que cette chose rencontrée nuitamment et qui hurlait à la mort, un cri à glacer le sang, c'est juste un rascal commun, complètement bourré, sortant d'un concert de punk qui a coincé sa burne dans la braguette en pissant contre un mur. Bizarrement, une espèce oubliée de cette somme fantastique qu'est l'Encyclopédie des Merveilleux, le troisième tome, Les Peuples de l'Ombre, donc de Edouard Brassé, qui a sorti des sommes absolument extraordinaires d'ailleurs sur ces bestiaires. C'est dans la collection Fantasy chez le Pré-Auclair. Je peux vous dire que le rascal qui coince sa burne dans sa braguette, c'est un cri qui n'a absolument rien d'humain. Serge Mérino au scénario, Gérodat au dessin, Soul Hunters, le premier tome s'appelle L'âme fatale, c'est chez Soleil Levant. Oh, croyez-moi que la ressemblance du titre avec un célèbre film de Buddy Movie n'est absolument pas un hasard. Un justicier doit faire équipe avec un boulet complet dans le rôle du gradé, Diane Artemis, une immortelle redoutable chasseuse de primes, ramenant les âmes damnées aux enfers avec des méthodes de travail un peu musclées. Sa spécialité? Oh, cela jouait solo, rentrer dedans et profiter de la carte de crédit illimitée de son démoniaque employeur. Seulement Diane Artemis est tellement sûre d'elle qu'elle a directement ramené sa dernière prise au grand chef des enfers sans même avoir vérifié la nature de la marchandise. Non pas l'âme damnée de Tom Amara comme prévu, mais celle d'Achille Ballast, un trafiquant à la petite semaine, genre petite délinquance, parfaitement pitoyable et âme sans grande valeur. Mais quand même, un mortel qui n'a rien à voir dans l'affaire qu'elle a tuée par méprise. Entre non-respect de l'éthique de la confrérie, erreur professionnelle caractérisée et crime de lèche PDG, il y a de quoi se retrouver dans le purgatoire des ascédiques. Et là, c'est pire. Rétrogradation au rang de base d'immortel, confiscation de la gold illimitée de fonction, obligation de finir sa mission, inconvénient d'un corps de mortel et enchaîné à l'autre abruti. D'ailleurs, lui a droit à une promotion immortel rang de base. Je veux pas dire, mais si un démon est capable de cruauté, le patron des démons est capable d'être encore plus cruel envers les employés. Et c'est pas tout feu, tout flamme. Avoir vécu pendant 4000 ans comme déesse, puis comme chasseuse de démons, et là, retour à l'humanité avec comme guide obligé un crétin parfait. Les personnages sont plutôt bien menés, le background cohérent et bien vu. Bon, allez, ça va pas se la péter très loin, justement, comme les buddy movies du genre, mais c'est un très bon divertissement, genre chips, bière, baston et gros rire. Et il y a des soirs où c'est exactement ce que l'on cherche, finalement. Je l'ai ouvert à la bonne date, tiens. Voilà. Soul Hunters, tome 1, l'âme fatale, c'est chez Soleil Levant, scénario Merino et dessin de Géroda. Donc on vient de nous envoyer par email
un email particulier quand même.
Oui. D'ailleurs, je suis en train de l'insérer dans l'ordi. Donc on a réussi à avoir, et je ne suis pas le seul à avoir vu cet incident, mais je crois qu'en plus on a un enregistrement qu'on va le mettre en route de suite là. Non, on n'entend pas l'enregistrement, étonnamment. Non, je crois qu'on a malheureusement un petit problème technique. Je suis désolé. Ah voilà. Là, je pense que ça devrait marcher. Allons-y, on va réessayer. Non, on n'a pas de signal. Bon, je sais pas ce qui se passe. Hein. La technique, hein, éphémère. Vous savez, ça marche des fois ça marche pas. Bah tant pis.
L'insert ne marche pas.
Ne marche pas. Désolé en plus pour la personne qui s'est égosillée deux fois par téléphone et ça n'a pas marché.
On peut dire ce qu'on a raté quand même.
Oui. C'est Doctor Strange qui a un sample assez spécial qui fait lui-même en direct et en live et ça ressemble à peu près au hurlement de Rascal. Pour dire que la prochaine réunion des animateurs, faudrait mieux pas que je reste dans le coin. On continue avec les bandes dessinées là parce que... quand même, hein, s'il vous plaît. Junya Inoue, qui est un prénom masculin, Junya. Inoue est un prénom, est un nom assez commun quand même au Japon. Otogi Matsumi, le premier tome vient de sortir, c'est aux éditions Doki Doki. Bon, on va se calmer sur les démons. Un Chabus, c'est gentil, un Chabus,
oui.
Non? Ouais, un Chabus, un vrai. Bah, en fait, si vous croisez un très gros chat dans une vieille forêt japonaise, vérifiez d'abord si ce n'est pas un chat araignée, pas un Chabus, une espèce de démon qui croque les humains. Pour son dessert. Une thèse bizarrement non explorée par la police de Miyakono après la découverte du double meurtre absolument effroyable de prêtres Shinto dans le temple. C'est pourtant la première manifestation que le voile ténu entre le monde des démons et celui des humains s'est déchiré. Et ce qui va arriver à Yosuke n'est guère mieux. En s'amusant avec ses camarades de lycée, le jeune homme détruit un petit temple sans le vouloir, comme ça, il a trébuché et blam ! Voilà, le petit autel cassé. Or, ce dernier est mystérieusement reconstruit dans l'instant par Yomoji, une fille de prêtre un peu maladroite, dont la passion c'est imiter Mickey comme dans le film Fantasia. Suite à ce sacrilège involontaire, Yosuke est désormais habité par une divinité dans son bras. Un phénix en forme d'arc qui va l'aider à combattre les démons. En fait, il va découvrir qu'il s'est retrouvé embrigadé dans un marché de dupes dont le prix à payer est assez cher. Il ne lui reste qu'une année à vivre. Et ça lui en donne des cauchemars assez horribles et on le comprend. Mais pour combattre les démons, Yosuke va avoir trois, ou même donc que la jeune Inaba Yomogi, celle de voir les esprits. Et Inaba va être une guide précieuse, d'autant plus qu'elle rentre dans la même classe que Yosuke au lycée. Coucou ! Faites tourner les rumeurs dans les couloirs. Mais enfin, cette relation n'est pas une relation d'amour, non, c'est spirituel, quoi. Bah bien, oui, bien sûr. C'est sympa, c'est rigolo, ça ravira les garçons pour les lycéennes en uniforme avec l'indispensable quota de fan service. Vous savez, c'est la vision en contre-plongée sur les petites culottes des filles. Afin de garantir les ventes, ça pioche de manière inventive dans le folklore shinto, tout en manipulant avec soin les scènes d'horreur invisibles aux yeux des humains. Ça s'appelle Otogi Matsumi, c'est le premier tome vient de sortir chez Doki Doki en France, et c'est de Junya Inoue. Ne me félicite pas mais m'engueule alors que quand même on était presque à l'heure. 12h37, 31 minutes et 7 secondes, c'est l'heure des publicités sur la FMR.
La chasse aux jaguars dans la Havane est déclarée ouverte le vendredi 10 novembre. Il arrive le type, Joe Star revient sur le devant de la scène musicale. Et ça nous change un peu des magazines People. Accompagné par Dadou sur ce show, gare au Jaguar. Et la famille de Brassens ne pourra rien y faire. Il n'y aura pas besoin de chauffeur de salle vendredi 10 novembre à Havana Café pour le concert de Joe Star. Mardi 14 novembre au Havana Café et pour la première fois à Toulouse, le groupe UFO. Pilier de la scène hard rock depuis les années 80, UFO vous présente son nouvel album, Monkey Puzzle. Mardi 14 novembre au Havana Café, UFO! Bien au-delà du réel.
Mademoiselle, voulez-vous danser? Mademoiselle, voulez-vous danser? Mademoiselle,
mademoiselle éphémère,
voulez-vous chanter?
Faites ses 25 ans.
Mademoiselle,
et si vous désirez l'inviter à danser,
voulez-vous danser?
Précipitez-vous au Cléo le 30 novembre.
Mademoiselle, voulez-vous danser avec moi ce soir?
En effet, de 21h à 5h du matin, ce soir-là, les boules à facettes brilleront de mille feux. Hypnolove, Starlight Boys, Opéra et Lassie en live. J-Error, DJ Tro et Exomiloplatine mettront la fièvre du jeudi soir.
Mademoiselle.
Alors dépêchez-vous d'amener votre plus belle tenue disco au pressing car le jeudi 30 novembre pour la soirée anniversaire de Radio FMR, il faudra qu'elle soit nickel chrome.
Éphémère. Et oui, puisque Éphémère fête ses 25 ans, et j'ai une petite revue de presse de l'époque, ce qui s'est passé, ce qu'il y avait dans les kiosques en décembre 1981, c'est-à-dire au moment de la création de Radio Éphémère. Un site du sport, ça devrait t'intéresser, lâche-moi ce bouquin s'il te plaît. Dans le pilote de décembre 81, le numéro 91, qui était passé mensuel, eh ben, on apprend qu'il y a le retour du concombre masqué à la recherche du Blue Tag Mordor. 25 ans après, le supplément week-end de Radio FMR aura en interview Mandrika, le créateur du concombre masqué, pour son retour à la bande dessinée avec le bain de minuit. et on l'aura en interview donc la semaine prochaine. Voilà, ce sera un chouette cadeau. Bref, 25 ans, on se fait plaisir. C'est bien, hein, je suis content, j'ai sorti mes bouquins chez moi.
Oui, maintenant il sait où il les a rangés puisqu'il a déballé ses cartons.
Ouais, ouais.
Excepté deux tomes
de Monster
qu'on attend toujours.
Bah, à partir du numéro 9, c'est bon.
Voilà. C'est celui qui manque.
Oh, merde.
Ça tombe bien pour l'ambiance. On se fait peur, on a toujours le guide sous la main du merveilleux.
Oui, oui, oui.
La rubrique DVD vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas. T'aurais pu me dire que t'avais ta propre intro.
Alors, on parle aujourd'hui des Masters of Horror.
C'est quoi, c'est un tournoi de tennis?
Masters, oui, presque. En fait, Masters of Horror, c'est une collection qui a été produite par Megaris. Alors, peut-être que tu sauras m'aiguiller, j'ai paumé le nom de la chaîne. C'était pour une chaîne américaine.
Showtime.
Voilà, parfait. Bravo.
Et au hasard.
Yeah, Showtime.
Et ils ont convoqué des noms célèbres du cinéma fantastique avec les maîtres de l'horreur. Alors, il y a Stuart Gordon, il y a John Landis, Dario Argento, John McNaughton, le mec qui avait fait Sex Crimes, Megaris lui-même, producteur.
Et qui avait fait surtout Henry Porter, ton vrai serial killer.
Ah oui, tiens, je savais pas que c'était lui qui l'avait fait, tiens.
Bah si, c'est son premier, bon, meilleur. Okay. Le meilleur.
Megaris, producteur de la série, qui a fait aussi le remake TV de Shining, qui était très bien d'ailleurs. Joe Dante, Lucky Maki, Takashi Miike, Takashi Miike qui n'a pas été diffusé sur la télé parce qu'il a fait un truc trop gore. Larry Cohen, William Malone et les trois derniers réalisateurs dont je vais parler aujourd'hui parce que les autres je les ai pas encore vus. Il s'agit de Don Cascarelli, de Toby Hooper et de Big John, John Carpenter.
Alors je tiens à signaler quand même que Thomas est secondé, si je puis dire, puisque en fait il y a un blogueur toulousain qui fait d'excellentes rubriques cinéma, c'est Yannick Chiwalou.
LPB,
voilà. Vous retrouvez les liens d'ailleurs dans notre émission. Sinon, vous tapez pataphysique.net et là vous pouvez tomber sur ses chroniques au milieu des nôtres et de plein d'autres personnes. Et c'est vrai que lui aussi a chroniqué quelques cours. Et je crois que justement t'as pas fait les, c'est pas les mêmes, ça se recoupe pas, c'est bien.
Ben moi j'ai vu qu'il les avait chroniqués, mais pour pas me laisser influencer, j'ai pas du tout lu ce qu'il avait mis, donc moi je sais de toute façon que c'est un bon niveau ce qu'il écrit, donc ça doit être du costaud. Alors on va enchaîner carrément avec Big John. Alors je sais plus où ça en est là, le fond sonore, et montre-le-moi s'il te plaît.
Et tu veux que je continue sur ton CD?
Oui, je t'avais dit que je devais continuer.
Okay. Ok, ben on passe au 3.
Voilà, très bien. Tiens, montre-moi le son là. Voilà, parfait. Alors, il s'agit de la fin absolue du monde, le cours qu'a réalisé John Carpenter. Et en VO, ça donne Cigarette Burns. Alors, Cigarette Burns, c'est le petit symbole qui apparaît sur en haut à droite de l'image pour signifier au projectionniste qu'il faut changer la pellicule.
Okay. Mmh.
Voilà. Et c'est un film qu'il a réalisé avec les acteurs Norman Reedus et Udo Kier. Alors, ils se font des signes entre eux, là. On dirait que... Ouais. Alors, je sais qu'il y a un Master of Horror qui passe bientôt sur Canal. Est-ce que c'est celui-là?
Non, mais c'est bien. Continue. C'est bien.
Ok. Alors, Alors, moi, franchement, j'ai commencé par celui-là, puisque, bon... On va commencer par Carpenter, quand même. Et franchement, j'ai pas été emballé parce que j'ai trouvé que c'était un remake fauché et version télé et sans trop d'idées de L'Antre de la Folie dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, L'Antre de la Folie, ça racontait l'histoire d'un écrivain de littérature horrifique qui faisait des bouquins tellement efficaces qu'il plongeait les gens dans un état de folie pure. Et les gens, voilà, en fait, il s'était forgé une espèce de monde à lui.
De mythologie,
Mythologie, avec
un ville à Lovecraft.
Voilà, exactement, une ville qui n'existe nulle part et qui est indiquée seulement en si on découpe les couvertures de ses bouquins qu'il a lui-même dessiné et qui voilà, et donc on peut accéder à sa ville mystérieuse. Et là, il s'agit donc dans la fin absolue du monde d'un réalisateur de un peu obscur qui a réalisé un film qui s'appelle donc La fin absolue du monde, qui a été projeté au festival de Sitges. Festival de films fantastiques et ce film là joue d'une réputation assez morbide puisque tous les spectateurs qui ont vu ce film deviennent fous et s'entretuent. Tiens, beaucoup de nouveautés là-dedans. Et alors évidemment il y a Udo Kier dedans qui est bon, lui il est génial comme d'habitude, donc on dirait qu'il a une tête un peu de vampire, de gars malsain déjà à la base, donc tu te dis
ouais. Bah ouais, bah de toute façon il a joué dans The Blade, il a joué dans Dracula et Frankenstein, les films de Andy Warhol, Paul Morrissey dans les années 70, les films en relief là. Mm-hmm. Donc ok, hein, ça va, il a la tête de l'emploi quoi.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Et je dirais aussi que c'est remixé avec un côté petit remake de La 9e porte de Polanski avec Johnny Depp, puisque c'est Udo Kier, c'est un collectionneur de films, de pellicules, qui charge un enquêteur, un propriétaire aussi de salle, qui va devoir, pour une somme d'argent assez grande, va devoir aller retrouver ce film qui est réputé brûlé, mort, disparu, voilà, donc il va et en plus ce film, c'est un film français qui va devoir aller à Paris pour enquêter.
Ah, je sais, c'est Red is Dead.
Red is Dead,
saloperie de communiste.
Et donc voilà, bon, Carpenter d'habitude il était réputé pour ses travelling, ses ambiances, voilà. Là c'est pas tôt.
Il se foule pas.
Ouais, franchement là non. Alors là il s'est pas foulé. Il y a juste des passages à gore à la fin de son petit téléfilm, puisque il faut savoir que les Masters of Horror, ce sont des petits cours des moyens métrages d'une heure. Et donc à la fin, on voit effectivement les effets, puisqu'ils ont enfin parvenu à retrouver le film, et puis on voit les effets sur eux du film. Donc à une scène, on dira pas qui c'est ni pourquoi. En fait, il y a plus de pellicule, et puis il y a le mec qui se met les intestins dans la bobine et... Et il faut savoir que la musique dans le film, ça ressemble à du Carpenter, mais c'est pas du Carpenter, enfin en tout cas c'est pas le même Carpenter, c'est son fils Cody qui a fait la musique du film. Alors voilà, ça c'était.
Papa, je peux jouer sur ton synthé. Oui, tu vas même faire une musique de film, tu vas voir.
Donc la fin absolue du monde de Neil Carpenter. Alors je me suis dit bon voilà, c'est pas folichon. Le lendemain, je m'enquille le moyen métrage de Toby Hooper, La danse des morts. Puis dans la foulée, La survivante de Don Cascarelli. Et finalement, on arrive à la conclusion, finalement John Carpenter, il s'en sort pas si mal.
Ah ouais, à ce point.
Bah Toby Hooper, il a fait un truc super épuisant, c'est il a joué film de Jones, voilà, avec des incrustations de partout, des flashs. Oh, ça va à tous les sens. Ouais, ça fait vachement fashion, génial. Et c'est La danse des morts avec Jessica Lones, Jonathan Tucker et Robert Englund, qu'il a déjà fait jouer dans Le Marquis de Sade. Il était assez rigolo d'ailleurs ce film. Et d'ailleurs, petite anecdote, puisqu'à l'époque j'étais encore étudiant en école d'art, et puis j'avais un prof qui était très passionné par Le Marquis de Sade, et puis je dis ouais, là cet après-midi je vais me faire le film par le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse avec Robert Englund, Freddy dedans. Ah, ça peut être intéressant. Puis je lui dis ouais, en fait à un moment donné il veut nucléer une femme. Je dis mais c'est n'importe quoi, Le Marquis de Sade il s'intéresse pas aux femmes. Oui, mais on n'est pas dans le Béridique. C'est assez rigolo. Ça a aucun rapport avec la chronique, mais bon, je me suis permis de le placer quand même. La danse des morts, ça raconte un univers post-apo avec une fille qui a perdu sa sœur et la mère, elle est un peu barrée. Et puis il y a deux mecs avec une gueule de drogué qui se bornent à essayer de faire des picouses à des vieux dans la rue pour récolter du sang pour Robert Englund. On sait pas trop ce qu'il en fait après. Et les deux gars, ils vont arriver dans le café que tiennent la mère et la fille, et la fille va être attirée physiquement par l'un des deux gars qui va l'amener dans la boîte bizarre que tient Robert Englund. Et voilà, bon. Après c'est pas très surprenant comme histoire, c'est avec des effets de mise en scène un peu mode. Ça se laisse regarder, franchement, c'est pas de mauvais niveau, mais on va préférer peut-être le film de Carpenter, de la mise en scène plus classique, mais avec un vrai climat. Et on en vient au dernier, La survivante de Don Cascarelli avec Brie Turner, Ethan Embry et Angus Crim. Alors là, franchement, c'est le moins bon des trois pour l'instant, personnellement, puisque c'est l'histoire d'une fille qui essaie d'échapper à un tueur qui s'appelle Face de Lune, avec une tête toute blanche dans les bois, de nuit, avec une cabane, un peu comme Massacre à la tronçonneuse. Il a son QG dans sa cabane, il énuclée les gens, il les transforme en statue crucifiée dans son jardin. Et on a aussi des flashbacks dans ce moyen métrage où elle se remémore, elle se rappelle qu'elle était mariée à un mec qui était adepte du survival avec des groupes paramilitaires pour aller se durcir puisque la fin du monde est proche. Et c'est comme par hasard très opportun qu'elle va se remémorer les techniques qu'il lui a apprises. Ah ouais, je sais manipuler un couteau, c'est vrai. Et puis il faut que tu fasses de l'inattendu et tout. Et puis elle va essayer de neutraliser la face de lune. Voilà. Carpenter is not dead. Donc il s'agissait des Masters of Horror, les trois premiers que j'ai vus. J'ai pas eu le temps de voir celui de Dario Argento. Je vais essayer de le voir Jennifer pour en parler rapidement la semaine prochaine. Il s'agissait donc de la fin absolue du monde de John Carpenter, la danse des morts de Toby Hooper et de la survivante de Don Cascarelli.
Ouais, on va préciser quand même que donc c'est une idée qui est venue de la de Mick Garris entre autres, mais également d'autres réalisateurs, des réalisateurs qui se connaissaient un petit peu puisque bon bah ils se faisaient des petits restos, des trucs comme ça. Elle leur est venue donc cette idée qu'ils ont proposée en Mick Garris en particulier aux chaînes de télé. C'est Showtime donc qui a acheté un petit peu le concept, avec en plus des contraintes techniques bien entendu, hein, c'est-à-dire un budget limité et ça, un temps de tournage limité quoi, hein, c'était un petit peu comme Sable Noir, quoi,
jour
hein,
et nuit, ouais.
C'est-à-dire que bon ben chacun avait une deux semaines pour le tournage, hein, les scénarios étaient préécrits, donc ils n'avaient qu'à choisir le scénario qui les intéressait le plus pour pouvoir l'adapter et le tourner. Et il y avait également un budget hein, qui était imposé de toute façon, quoi. Donc c'est pour ça que bon, bah, des fois on a des épisodes qui sont un petit peu en deçà de ce qu'on connaît des réalisateurs.
D'accord. D'ailleurs Carpenter, puisqu'il est assez malade en ce moment, il se demandait s'il allait accepter ou non, parce qu'il fallait quand même tourner jour et nuit, donc c'était assez épuisant surtout pour quelqu'un de son âge. Mais j'ai cru comprendre qu'il a réapparu dans la deuxième saison aussi.
Oui, il y a une deuxième saison de toute façon, donc il y a des petits nouveaux ou des réalisateurs très connus, parce qu'on dit que dans la première saison on regarde les Master of Horror, on se dit ah ouais mais il manque celui-là, ouais mais il manque celui-là, mais il manque celui-là. Bon ben c'est parce qu'ils avaient des contraintes, ils étaient pas libres ou parce que ça les intéressait pas. Mais vu que la série a quand même eu un certain succès aux États-Unis, il y a une deuxième saison qui va se tourner. Donc ok, pourquoi pas prendre le wagon en marche ou profiter des opportunités au niveau planning de travail, quoi, tout simplement. Quoi.
Alors toi, comme ça va se passer. Et toi qui as la liste des réalisateurs tout frais en tête de la première saison, quel réalisateur aurais-tu vu qui n'y est pas et que tu souhaiterais dans la deuxième saison?
C'est un peu loin là. Ça fait...
Moi c'est Tsukamoto.
Ah oui. Bah, bon, il faut dire que du côté de... Du côté des Japonais, il y a un Japonais qui est présent dans la première saison, c'est Takashi Miike, okay. Dont le segment ne passera pas sur Canal, hein, dans la version, j'en parlais un petit peu plus tard dans la télé, parce que bon, il est vraiment un petit peu à part, il est un petit peu violent. Miike est le seul de la première saison à avoir obtenu satisfaction sur plusieurs plans, c'est-à-dire pouvoir tourner au Japon, alors que tous les autres devaient tourner dans le même endroit, enfin sur les mêmes lieux de tournage. Miike a obtenu le droit du final cut de toute façon, c'est-à-dire que bon, il y a des trucs très gore, et c'est pour ça un petit peu hein, que Canal+ ne le diffusera pas dans la continuité des Masters of Horror, mais aura droit à une soirée spéciale.
Ah. Cool, cool. Et là, je regrette de pas avoir le décodeur chez moi.
Eh ben, tu vas se débrouiller.
C'est déjà disponible en coffret DVD. Hein.
Oui, mais il faut se les taper quand même. 15€ le coffret. Voilà, il y en a pas mal quand même. Les DVD.
D'accord, on va changer un peu d'ambiance. Hein. On va se remettre un peu. On va foutre quelque chose un peu plus happy, entre guillemets.
Gun. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you.
Massive Attack, Safe From Harm, extrait de leur tout premier album qui était sorti en 91, Blue Lines, et donc c'est le morceau d'ouverture d'un groupe qui a vraiment créé un genre à lui tout seul, comme tout plein d'autres à l'époque.
Avec le sample pompé de George Duke et Nick Obam.
Eh oui, exact, aussi. On va entamer la télévision avec du sport qui... on a une news assez amusante qui nous a été soufflée par François Penaud sur le site Actua BD. C'est lui qui l'a reporté, donc nous on se fait un plaisir de citer nos petits camarades. C'est que figurez-vous que les Simpsons vont accueillir dans un prochain numéro, s'il vous plaît, Alan Moore en guest. Alan Moore qui sera dessiné et qui en plus aura sa propre voix et qui sera la preuve absolue que Simpson c'est vraiment de la fiction pure et simple, puisqu'Alan Moore n'a pas quitté le Royaume-Uni depuis un sacré bout de bail, donc c'est rigolo. Et sinon il y a la bande-annonce qui est passée sur France 4. S'il revient le 20 novembre et le lundi soir ce sera en VF et le vendredi soir ce sera en VO. Le docteur. Et là, hein, le docteur qui?
Docteur qui?
On s'en lasse pas! Allez, du sport pour la revue de presse!
Ouais, c'est juste pour vous parler du nouveau numéro de Mad Movie, avec une superbe couverture. So 3. Ah ouais, c'est les tripes que tu vois là. Nouvelle édition, alors nouvelle formule, ils le disent. J'en ai pas parlé lors du précédent. Alors nouvelle formule, c'est parce que bon, ils ont trouvé une mise en page qui est plus agréable à lire, moins fouillis, plus dégagé, et surtout ils ont adapté les fonds par rapport à la couleur du lettrage. Très important, parce que je me rappelle d'un numéro où il y avait un article sur
fond noir.
La critique de H2G2 qui était illisible, à ce point illisible qu'ils ont dû refaire paraître l'article dans le numéro suivant pour que les gens puissent lire correctement le truc. Vraiment un truc, bon, tu sais, parce que bon, ils ont la fâcheuse. Enfin, ils avaient l'habitude de d'imprimer leur texte, hein, le texte de leurs articles sur fond de photo. Hein, tu vois, avec les photos en fond, les photos du film. Donc des fois, bon bah ok. Ouais,
les zones noires, les zones blanches.
Selon les zones, bon bah ok, hein, laisse tomber. Surtout quand t'as pas un lettrage qui est forcément noir comme à chaque fois. Des fois, bon, il est un petit peu argent. Des fois, il est un petit peu tu vois pastel comme ça. Bon bah ça la fout un petit peu mal, quoi. Alors là, c'est la nouvelle formule. Donc, mais le contenu reste le même. Rassurez-vous. Avec, comme d'habitude, les articles qui concernent les films récents à la sortie. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que dans le Mad Movie du mois dernier, ils avaient l'air de monter très haut, hein, le Dahlia Noir de Brian De Palma. Là, ok, c'est un petit peu changement de registre, hein, on retombe un petit peu sur terre. Hein, c'est Brian De Palma, voilà, qui adapte le Dahlia Noir. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est tout, on s'arrêtera là. L'autre film à la sortie, bien sûr, avec le Sotra 3, avec un article qui concerne les slashers oubliés, Forgotten Slashers, avec Torso, entre autres, avec The House of Sorority, Appel au meurtre, et 999999, le film thaïlandais, qui paraît-il est vraiment assez... D'accord. Ensuite, parce que bon, tu vois, le titre de l'Alga Noir, hein, c'est carrément... Mission impossible, point d'interrogation, quoi, genre, quoi.
En plus, à Brian De Palma.
Sinon, au niveau des articles, hein, la télé se développe de plus en plus dans Mad Movie, c'est une très bonne nouvelle, avec un super gros article sur la série hein, dont on parle, dont je vous parle depuis pas mal de temps. On regarde un petit peu comment ça se passe. Ça a l'air de bien démarrer aux États-Unis. Ça s'appelle Heroes, avec plein de super-héros dedans et Adrian Pasdar. Donc on est vachement content, hein, c'est alléchant. Et ce sera sur les écrans français au printemps prochain, Canal Plus et TF1. Alors on verra comment ça va se passer. The Battle, quoi, tu vois, ça va être The Battle.
Yes.
En tout cas, avec les revues, les sorties DVD. Alors tu parlais de la sortie DVD
de l'Antre de la Folie.
De l'Antre de la Folie, ouais. Il y a également plein de Palma qui ressortent. Qui sortent. Il y a également un super article, alors là, à suivre en plus, hein, sur un des maîtres du fantastique, hein, qui a inspiré de nombreux très très grands réalisateurs, hein, qui a pendu des scénarios pour des séries télé, pour des trucs, c'est Richard Matheson, qui a écrit le bouquin dont est tiré Duel, hein, le film de Spielberg, là, qui l'a révélé, tu vois, entre autres, quoi, hein, je veux dire, hein, il a participé à la quatrième dimension, il a fait des scénarios sur... pas mal de trucs, il a adapté beaucoup de scénarios, on va dire beaucoup de bouquins, de polars, enfin d'autres genres, quoi, pour en faire des scénarios pour le cinéma. Donc hein, c'est un des grands, hein, c'est vraiment un très très grand, hein, de toute façon, en ce qui concerne la littérature fantastique et le cinéma et là le petit et le grand écran. Donc tout ça dans Mad Movie de ce
mois-ci.
Ouais, mais je te le prête pas.
Oui, je te le range.
D'accord. On en vient à présent avec la nécro, donc hein, deuxième nécro de l'émission. Là, ben voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Tu mets une musique de circonstance ou
Je crois pas que j'ai grand chose pour ça, mais bon. Vas-y, c'est toujours.
Voilà, il était né en 1920, de fils d'émigrés ukrainiens. Pourquoi il y a un mec qui cause derrière hein.
Excuse-moi, c'est une erreur.
Bon, voilà. Il était né donc en 1920, fils d'émigré ukrainien Vladimir Palanouik, et il est devenu Jack Palance avec une première apparition au courant des années 50, un film d'Elia Kazan assez célèbre, Panic in the Street, panique dans les rues. Sa filmographie est assez éloquente, si du début des années 50 jusqu'à, on va dire, au milieu des années 60, il joue dans des films relativement sérieux ou dans ce que on peut appeler la production cinématographique de bonne qualité. Par la suite, ça s'est un petit peu gâché, puis bon, il allait exercer ses talents, on va dire, plus pour la monnaie que pour l'amour de l'art, quoi. Et vous en jugerez, bien entendu, évidemment, dans sa filmographie qui est assez éloquente quand même. Hein. Il a commencé dans les années 50, il est mort donc cette semaine, hein. Il avait donc 87 ans, et il a pratiquement jamais arrêté de tourner, sinon dans les dernières années, là, bien entendu. Mais jusqu'à la fin des années 90, il était encore actif de l'autre côté de la caméra. Donc premier film avec un film de Kazan, donc Panic in the Street en 53. Je ne vais pas tous les citer parce que s'il y a une tapée, Panic, Passion sous les tropiques de Rudolf Maté. Et il a tourné également avec le gratin, on va dire, hein, des réalisateurs. De toute façon, L'homme des vallées perdues avec George Stevens. En 54, Le signe du païen, Douglas Sirk. En 55, Die the Size on Time, La peur au ventre, en français, de Stuart Eisler. Le grand couteau, de la première collaboration avec Robert Aldrich. Le grand couteau, qui est un film un petit peu atypique, hein, parce que bon, bah, généralement, on le prenait parce qu'il avait une gueule très typée, on va dire, hein, très émacié, un visage très émacié. Donc on le prenait surtout pour jouer le rôle de méchant, de second couteau, de trucs comme ça. Et là, dans Le Grand Couteau, en fait, il joue le rôle d'un acteur, hein, qui est un petit peu tyrannisé par son agent et par son producteur pour jouer dans un film qu'il a pas envie de jouer, quoi. Alors donc c'est un film sur le piège dans lequel peut se refermer un acteur pris dans la nasse hollywoodienne, on va dire prisonnier d'un rôle, prisonnier de plusieurs apparitions publiques. C'est vraiment très très bien. Et là, il se révèle vraiment comme un bon acteur, un très très bon acteur. Ensuite, un peu plus tard, en 56, Attaque avec du même Aldrich. En 58, 10 Seconds to Hell de Aldrich. En 61, Le Jugement Dernier de Vittorio De Sica. Les Mongols de André de Toth, où il joue justement un rôle de Gengis Khan avec Anthony Quinn. Barabbas, ouais, de Richard Fleischer. En 64, il tourne dans Le Mépris de Godard. En 66, Les Professionnels de Richard Brooks avec Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan et Claudia Cardinale. C'est l'histoire d'un propriétaire qui cherche quatre tueurs professionnels de retrouver sa femme qui a été enlevée. Et en plus, le film est diffusé mardi prochain à 21h sur TPS Cinétoile. Il y a également, après, à partir de justement en fin des années 60, là, il commence à se tourner vers l'Europe, c'est-à-dire le cinéma B, de série B, les western spaghetti, les films érotiques, on va dire, et tout ça, avec de grosses participations en Italie. En 69, il fait Le Mercenaire de Sergio Corbucci, il fait Justine de Jess Franco, ou Jesus Franco, si vous, avec Klaus Kinski et Romina Power, hein, qui est qui sera diffusé jeudi prochain à 20h45 à la télé. Sur ciné-cinéma extrême, semble-t-il. Il fait La Légion des Damnés aussi en 69 de Umberto Lenzi. En 70, il fait Les Cavaliers de Frankenheimer. En 71, Les Los Compañeros de Sergio Corbucci. Et Les Collines de la Terreur de Michael Winner avec Charles Bronson. En 73, il fait Dracula. En 74, Le Gang des Frères Blue. En 76, encore un Corbucci, c'est Flic en Blue Jean. Il fait en 82 un des bons films de terreur qui s'appelle Alone in the Dark de Jack Shoulder avec Donald Pleasance et Martin Landau. Et il est apparu dernièrement dans un rôle en 91. Il a obtenu un Oscar pour un second rôle. Enfin, quand même, il était temps.
Ah oui, parce qu'il n'a même pas été une seule fois récompensé.
Bah non, mais non. Généralement, bon, il était assez en bas, hein, on va dire, hein, dans les génériques, hein, on va dire. C'était pas parmi les premiers noms, hein, jamais, hein, sauf dans Le Grand Couteau justement, hein, de Robert Aldrich, où là il avait c'était le premier rôle, quoi, tu vois, quoi. Je crois que c'est un des seuls films où là le premier rôle, exception faite bien entendu, hein, de toute la série de films italiens qu'il a fait avec tous les Corbucci, les Lenzi et autres réalisateurs. Sinon, il a fait également une série, c'est pas vraiment une série, c'est deux films, hein, qui sont sortis sur la mode comédie avec Billy Crystal, entre autres. C'est La Vie, l'Amour et les Vaches, dans lequel il interprète le rôle de Curly. Et il y a un deuxième film qui est sorti qui s'appelle Lord Curly, quoi, justement, et ça a été un des derniers grands rôles qu'il ait tenu sur le grand écran. Voilà, hommage à toi, Jack Palance, 1920-2006, Vladimir Palanouik. Alors, du côté des séries à la télé, bah, il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment la daube, hein, c'est dur. Si une seule nouveauté inédite complètement, qui en plus a été tournée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin de l'année dernière, hein, donc, c'est The Unit, la série produite et réalisée, créée par David Mamet, s'il vous plaît, hein,
yes.
Ouais, ça peut être pas mal, avec dans le rôle principal celui qui fout le président Palmer, mais qui se fait descendre dans la cinquième saison.
Dennis Haysbert. Il se fait descendre dans la cinquième saison.
Ouais.
Le salaud.
Au début.
Eh oui, il fallait pas le dire.
Ah merde. Moi, je croyais, parce que
elle
bon,
a même pas été diffusée en France.
Ah pardon. Non, mais à lire toutes les interviews de Dennis Haysbert, où au départ il avait vraiment les boules, tu vois, parce que bon, il était pas au courant. Hein, qu'il faisait pas la saison, et puis bon, clac, bon bah ils se font dégommer, il se fait dégommer et tout. Alors au départ, il avait vachement les boules parce qu'il était vachement copain avec Kiefer, entre autres, quoi, et puis bon, on s'entendait bien avec le reste de l'équipe, donc ça lui a foutu un petit peu les boules, quoi, tu vois, d'être débarqué comme ça au premier épisode. Et au fur et à mesure, là, une interview plus récente, bon bah ok, il est un petit peu plus cool, hein, dans ses griefs, hein, par rapport à, ben, à la fin prématurée du président Palmer.
C'est ben tout. Nous, on aura un grief, ça s'appelle un blâme.
Alors, eh bien, c'est pour apparaître dans cette série qui s'appelle The Unit, donc qui raconte, ben, l'histoire, c'est un petit peu du Agence Matrix, quoi, tu vois.
Hein, ce que j'ai vu des bandes annonces, c'est assez costaud.
Trip,
hein.
Trip 24, tu vois, aussi, quoi, hein, parce que bon, ça booste, hein, c'est une série d'action, donc, et ça raconte l'histoire de mecs et de bonnes femmes aussi, qui vont aux quatre coins du monde, comme ça, pour arranger un petit peu la politique de la puissance mondiale qu'est les États-Unis d'Amérique.
Bah, c'est bête, ils ont plus leur président de la démocratisation forcée, là.
Non, là, parce que là, c'est plutôt pour Hein, régler des comptes, genre, ok, bon, là, on n'a pas besoin de l'appui de l'ONU, on va s'en passer et tout, tu vois. Enfin bon, il faut agir pour le bien de l'humanité.
Ah bah oui,
conneries de ce genre. Et donc, ça, la pilule a l'air de passer parce que la première saison ne faisait que 13 épisodes, parce que bon, on sait pas, on sait jamais, donc on fait que 13 épisodes à la place de 22, ça coûte moins cher. Et comme ça marche, eh ben, on refait une deuxième saison de 22 épisodes qui est en cours de tournage actuellement, hein, ça a débuté. Ouais. Le tournage a débuté en septembre, il y a deux mois. Et donc, c'est diffusé sur une chaîne française, W9 en l'occurrence, à partir de lundi prochain, 20h45, avec deux épisodes. Le premier, L'avenir du monde, et le deuxième, Une vie à deux. Alors, ça raconte l'histoire de cette équipe de super unité vachement traînée, des militaires.
De barbouze, quoi.
Enfin, enfin bon, on est super barbouze, tu vois, quoi. C'est une équipe de James Bond, quoi, tu vois. Carrément l'équipe de James Bond. Et,
Il faut faire une spéciale James Bond, d'ailleurs.
Et donc, ce sera suivi à 22h15 d'une autre série qui est pas trop mal, hein, qui s'appelle Les 4400, et dont on pourra revoir eh bien la diffusion dans l'ordre avec l'épisode pilote à partir de lundi 22h15 sur W9. Ce soir sur dans une New York unité spéciale. Ah, t'as vu de samedi dernier, alors il quand même faut le faire, quoi. Alors là, c'était un épisode qui était entièrement consacré à Ice-T, hein, qui avait le rôle principal, parce que là, Stabler et puis Mariska Hargitay, ils étaient plus ou moins mis de côté. Enfin bon, c'était les enquêteurs, mais ils avaient le second rôle. Et le fils de Ice-T se fait retrouver dans un terrain vague, chopé pendant un terrain vague par des keufs, en train de creuser, quoi. Donc il lui demande, et puis le mec il dit ouais, y a un mec qui m'a dit qu'il y avait un cadavre qui était enterré là-dedans, ouais. Et en fait bah s'avérer, hein. Et puis alors bon, déjà le fils de Ice-T il est pas content, parce que bon, il a pas le droit de faire partie de l'enquête, parce que il s'agit d'une enquête qui incrimine un de ses proches, hein, donc il y a conflit d'intérêt. Et en plus on apprend qu'il vit séparé de sa femme, enfin de la mère de son fils, hein, le cher Ice-T, et que ça va pas très très bien. Il y a des répliques qui fusent, hein, qui sont assez terribles, hein, quand même, quoi. Alors là moi j'ai bien apprécié et tout, quoi. Ouais, mais enfin bon, t'as été qu'une petite giclée de sperme, un truc comme ça, enfin bon, genre glisser comme ça vite fait, enfin bon, les petites engueulades, quoi, tu vois, familiales entre Ice-T et son ex-femme, c'est assez rigolo quand même. Et il s'avère qu'en fait c'est le cousin, hein, de Ernest Waddell, qui en fait était le meurtrier, interprété par un rappeur connu aussi, Ludacris, la jeune génération.
Ah oui, s'il vous plaît.
Ludacris, donc, hein, qui interprétait le rôle de du cousin, donc, qui avait effectivement tué cette bonne femme. En plus, c'était une nana qui était enceinte, quoi. Bon, alors ça la foutait mal, quoi, tu vois, quoi. Et ça va continuer ce soir avec Cruel Dylan, nouvel épisode de la saison 7 de New York Unité Spéciale, avec encore Ernest Waddell, donc le fils d'Ice-T, qui va être mêlé à une autre affaire. Ouais, dis donc, ça va.
Enfin, c'est pratique, hein, la jeunesse délinquante.
Ouais, mais en tout cas, bon, avec ces épisodes, avec cet épisode entre autres, je veux dire, ça a boosté à nouveau l'audience, hein. Je veux dire, il y a eu un coup de jeune, hein, dans cette série qui en est déjà à sa 7e saison, hein.
Mais
qui
il
fait
est...
que c'est la.
Il les... a été très 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 lourdement invité dans les talk-shows du soir, hein, Ice-T, justement, l'année dernière. À la fois parce qu'il avait deux albums qui sortaient, il me semble, dont un avec son projet rock, j'oublie
ouais,
le
ouais, Body Count, ouais, Body il est sorti, Count, ouais, voilà. Ouais.
Et aussi, ils arrêtaient pas de dire, ouais, apparemment les producteurs montent sur toi et tout, etc. Il fait, ouais, parce que quand même, je représente plus la rue que la plupart des autres acteurs et tout, bah.
Ouais, parce qu'à un moment, parce que bon, on en a appris pas mal, hein, sur la vie privée, on va dire, de Stabler, interprété par Mélanie, et un petit peu sur la vie de Mariska Hargitay, inspecteur Benson. Mais par contre, sur les autres, hein, je veux dire, Richard Belzer, et Ice-T, hein, c'est-à-dire les autres inspecteurs, on en apprend vachement moins. Et puis là, bon, c'est l'occasion, justement, développer un petit peu d'autres caractères. Et puis bon, quand Ice-T l'envoie à la gueule de Mélanie, ouais, ta fille, toi, la prochaine fois, c'est pas bourré au volant du manuel qu'on attrapera, c'est avec quoi, tout. Il se balance des bons trucs et tout. Enfin, ça va, oula, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Donc, hein, c'est ce soir, donc, sur TF1 à partir de 23h10, l'épisode Cruel Dilemme, suivi de l'épisode Une question de poids, un autre épisode de la saison 2, 7, tous les deux, hein, moins 12, hein, parce que bon, quand même des sujets un petit peu hard. Et t'en parlais avant, bah oui, c'est vrai, c'est à partir de vendredi prochain sur France 4. Mais alors, il va falloir veiller tard, boire beaucoup de café. C'est à partir de minuit 20 que vous pourrez voir les épisodes du Doctor Who en version originale sur France 4.
Ouais, parce que je veux pas dire, mais en VF... C'est une petite exclue. Attention, c'est en VF, hein. Méfiez-vous.
Téléphone fantastique d'espace, l'intérieur est beaucoup plus grand que l'extérieur, mais ça c'est le mystère du Dr. Key.
Bill Bailey, qui est un humoriste très connu en Angleterre, qui joue pas mal sur les la musique et tout ça, et qu'on a vu dans plusieurs séries, dans Nevermind the Buzzcocks, mais aussi enfin c'est un jeu télévisé, mais aussi qu'on a vu dans des séries anglaises comme The Strange et j'ai oublié quelle autre série d'ailleurs, et qui est un gros humoriste, je vais dire assez nonsense. C'est pour ça qu'on l'a en doublage dans le Guide du Retard Galactique. Voilà, on passera le morceau en entier une autre fois.
Master of Horror à présent avec on en parlait avant avec Thomas.
Ben c'est à partir quelque chose.
C'est à partir de vendredi prochain sur Canal Plus, hein, en deuxième partie de soirée, avec pour commencer un premier segment qui est qualifié dans toutes les critiques, hein, là depuis le début, de un petit peu mou du genou, un petit peu en dedans, quoi, on va dire, hein, mais bon, je crois que c'est le cas également d'autres. Il s'agit du Joe Dante qui s'appelle Homecoming et qui raconte en fait l'histoire du c'est un petit peu l'histoire des soldats américains qui seraient tombés en Irak et qui reviendraient quand même pour voter, des zombies qui reviendraient donc pour voter quand même, quoi, pour dire ouais, on n'est pas d'accord.
Pourquoi Joe Dante a choisi ce scénario.
Laisse-moi deviner là, mais Tiberi, il aurait dû faire la même chose.
Avec dans les rôles principaux John Tenney, qu'on voit actuellement en train de se faire Kyra Sedgwick dans The Closer.
Et t'oublies une chose qui est assez importante, qui est assez rigolote, c'est que les élections aux États-Unis ont lieu tous les deux ans le premier jeudi de novembre, c'est-à-dire juste après Halloween. Donc ça passe bien justement, non? Bon, d'accord.
Ouais. Outre John Tenney, donc dans Homecoming, dans ses Master of Horror, il y a également Beverly Brewer et Robert Picardo, hein, le docteur hologramme dans Star Trek Voyager.
Je connais un autre Picard.
Et ce Homecoming de Joe Dante est suivi par la diffusion donc de du Carpenter, La fin absolue du monde, avec Udo Kier dans le rôle principal. Et tout ceci en fait fait une soirée très agréable sur Canal+, parce que au départ de la soirée, eh bien, est diffusé ce qu'on appelle une mini-série. En fait, là, ce sera diffusé en deux parties par Canal+, la première vendredi prochain, la seconde vendredi d'après, hein, parce que bon, ça dure quand même 1h45. Mais mini-série de prestige, adaptée pour la télé, coproduction américano-britannique, qui s'appelle Elizabeth, et qui a chopé aux derniers Emmy, je crois bien, 6 ou 7 Emmy. Tu vois, alors bon, pour te dire, laisse tomber, tu fais pas le poids, va jouer dans ta cour, petit. C'est réalisé par Tom Hooper, hein, ça date de l'année dernière, donc avec dans le rôle titre Helen Mirren, il y a Jeremy Irons, Patrick Malaid, et je passe tous les autres parce que bon, il y a une distribution, laisse tomber quoi, ça va quoi.
Donc
tout ça donc c'est vendredi prochain sur Canal+, hein, donc d'abord Elizabeth à partir de 20h50, suivi donc à partir de 22h55 des Master of Horror. Il y a la série française de la semaine, mon petit gars, qui est également une mini-série vu qu'elle sera diffusée sur 4 semaines, hein. quatre petits téléfilms d'1h40, mais qui racontent une histoire et qui fait un petit peu penser à du Simenon, du Agatha Christie, des petites choses comme ça. Ça s'appelle Petit meurtre en famille, ce sera diffusé mardi prochain à 20h50 sur France 2 avec Robert Hossein. Qu'on va pas voir longtemps, vu que c'est lui qui va mourir.
Ah, ouf!
Réunion de famille, le plus vieux qui crève, tu vois, voilà, hein. Donc, truc banal, on va écrire meurtre, décès banal, meurtre banal. Mais enfin, après, c'est la résolution du crime qui va entraîner justement toute cette histoire avec également, quand même un casting français, on va dire haut de gamme, hein. Outre Robert Hossein, on a Elsa Silberstein, Frédéric Bell, la blonde. Antoine Duléry et Marius Colucci, le fils de l'autre. Et tout ça passe donc sur mardi prochain à 20h50 sur France 2. Alors moi je croyais que sur les chaînes du service public, il y avait plus ou moins une espèce de connivence, hein, qui poussait les unes à céder l'une par rapport à l'autre et tout. Non, là c'est choc full frontal, la série française, production française face à la série américaine qui marche pas mal, The Closer, qui est diffusée en même temps, le même soir, sur France 3. Merci les gars.
C'est vraiment dommage qu'elle est vraiment exceptionnelle.
Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Allez,
surtout, j'ai beaucoup aimé le coup de la maman qui arrive dans la vie du personnage principal pour lui mettre au bazar, lui ranger sa maison et tout.
Non, c'était pas dans la série ça, Xavier.
Bon,
si, il y a eu deux épisodes. Oh,
d'accord.
un peu de déconne à présent.
Private joke.
Et l'occasion pour Manu et Bruno bien de faire leurs armes enfin sur une vraie télé. Tu vois, à savoir grosse audience et tout, à savoir s'ils vont tenir la route. On les a découverts dans la Télouse, c'était des trucs pas mal qui passaient sur Comédie. Puis ils ont un petit peu migré sur TPS Star où ils animent tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, même du lundi au samedi me semble-t-il, de 19h à 19h50. Une émission qui s'appelle Le Soiring, avec comme thème un invité, plus des rubriques à la con, des détournements de pub, des détournements d'émissions de télé.
Ce qu'ils font en matinale sur Énergie.
Ouais, mais pas mal quoi, franchement pas mal du tout. Et c'est l'occasion pour eux de se jeter un petit peu dans la gueule du loup. Ce sera sur M6 en fin d'après-midi à 17h45. Manu et Bruno sont dans la télé. Un format assez court également.
C'est aujourd'hui d'ailleurs.
C'est aujourd'hui, cet après-midi.
C'est en remplacement des compilations des épisodes
vidéo gag et tout ça. Ouais.
Voilà.
On s'en tape. De toute façon, le plus important, c'est que ce soit leur première. Donc cet après-midi, hein, à ne pas louper. Donc à mon avis, parce que moi, j'aime bien. Quoi, franchement, j'aime bien. L'invité sera Gad Elmaleh, ce qui ne gâche rien. Donc ça peut présager du bon. Hein, de toute façon, une bonne heure de déconne.
Attention,
quand même,
hein. Du sport aime bien, du sport recommande.
Ah ouais. Je recommande également toujours, et ça depuis plusieurs semaines.
Ah, la surprise du chef.
Le documentaire ou la deuxième partie du vendredi soir sur Arte. C'est ça ou les Master of Horror. Alors hier soir c'était Elroy avec le documentaire qui surtout consacré on va dire à son bouquin My Dark Place, quoi, c'est à dire je sais pas si t'as vu le hier soir, quoi, enfin bon, où il se balade dans Los Angeles aux endroits où ça s'est passé, tout le bordel et tout. Il raconte sa vie et puis en même temps il raconte ce qui se passe dans My Dark Place et, avec quelques petites explications, enfin pas mal, hein, quand même. Mais c'était un documentaire inédit, là, ouais, c'est vrai que c'était pas le même qu'ils avaient déjà diffusé. Enfin, j'ai préféré quand même le documentaire de 13e rue là, qui était un petit peu plus intéressant comme ça, qui était passé lundi dernier, consacré au Dania Noir. Sinon, on change radicalement de thème sur Arte vendredi prochain à 23h45, et en plus c'est décalé d'une heure, et je vais te dire, c'est facile, tu comprends tout de suite, parce que ça parle de cul. Le titre c'est Sexe, la révolution venue du froid.
Non.
Alors il s'agit pas...
De suite.
Non, il s'agit pas de faire l'amour dans le frigo. Non. Mais plutôt du marché du de l'industrie érotique. Bon, allez. Allez, je parle autant là.
Il y a du sport après. Hein.
Mais ouais, déconne pas.
13h28.
Donc, deux documentaires consacrés bien à l'industrie et à la pratique du sexe venu des pays scandinaves, avec d'abord un documentaire qui était déjà passé sur Arte Il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Moi, roi du X, hein, qui raconte la vie de Lasse Brown, qui est un mec qui a un petit peu révolutionné, qui a été l'un des premiers, on va dire, hein, sur l'industrie de l'érotisme et du X, venu de Scandinavie, et suivi à 0h55 de Scandinave, le sexe simplement, hein, une petite rétrospective de ce que les Scandinaves nous ont livré à propos du sexe, hein, que ce soit les anciennes photographies, aux revues Olé Olé et au film X un petit peu plus tard. Tout ça donc sur Arte vendredi prochain à partir de 23h45 dans ce double documentaire qui s'appelle Sexe, la révolution venue du froid. Allez, vite fait, la semaine de télé sur NT1, une chaîne de la TNT. Avec ce soir à 20h40. Alors c'est à chaque fois à 20h40, tous les jours de la semaine, comme ça il n'y a pas besoin de se tromper. Ce soir, la dernière cible dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est un Michael Dudikoff. Un film canadien de Damien Lee de 96 avec Michael Dudikoff, donc Patrick Gallagher et Billy Dee Williams. Et en fait, Michael Dudikoff, il est tueur à gages et tout, mais il va se faire embrouiller la tête par 2 potes et tout, quoi, que soi-disant c'est des potes, mais c'est pas des potes du tout. C'est des gros enfoirés, tu vois, et il va se faire embringuer dans une histoire. Enfin bon, c'est Michael Dudikoff, tu me diras, quoi. Mais t'en fais pas, ça s'arrange. Donc c'est ce soir la dernière cible. Demain soir, 20h40, un des fleurons de Roger Spottiswoode de 92, Arrête ou ma mère va tirer.
Oh non!
Ah
oh non
si! Avec Estelle Getty, hein, qui est excellente, hein, et Sylvester Stallone qui sauve les meubles comme il peut. Lundi soir, aussi un fleuron du genre Street Fighter, l'ultime combat.
Très bien.
Ah ouais.
Grandiose.
Steven de Souza.
Ah ouais, Kili.
Oui, le Steven de Souza de 94 avec Van Damme, quand franchement quoi. Ouais, et le regretté Raoul Julia.
Ouais.
Et oui. Mardi. Pas cinéma, choc l'émission avec la présentation d'Alexandre Devoise. Le mec qui faisait toujours le gimmick avec les chats quand il présentait la météo dans La Grande Famille sur Canal Plus, quoi, tous les jours, il y a un truc avec un chat, quoi, enfin un peluche le chat, quoi, tu vois. Et c'était vraiment très très bien, quoi. Tu vois.
Mais il est pas mauvais.
Il a pris du poids quand même, tu vois.
Ouais, mais
c'est le joueur du hard à un moment donné.
Là tu vois il est plus à Canal, hein.
Sait ce qu'il regardait nuit avant
cette
le
émission
soir.
Pour cette émission et eh bien il sera aidé de Michel Chevalet, rappelez-vous.
Comment ça marche,
ouais, comment ça marche. Bah,
pour l'expliquer. Les nostalgiques de Michel Chevalet,
choc l'émission. Alors choc l'émission, c'est des extraits de d'images un petit peu extrêmes dans tous les genres, hein, des gros accidents, des gamelles pas possible,
des stars qui perdent leur soutif,
il laisse sa main traîner, il y a un crocodile qui la bouffe, ah, j'ai plus de main et tout, que va-t-il se passer, enfin tu vois, quelques trucs comme ça, et une petite rubrique olé olé comment les stars que nous adorons dans le temps quand elles étaient pas connues, elles étaient un petit peu moins habillées, tu vois quoi, mon gars. Attends, Alyssa Milano, toute la bande, mais ça c'est en dernière partie de soirée. Tu vois, alors donc ça c'est choc l'émission, c'est mardi prochain sur NT1, mercredi prochain Sursis, un film canadien d'Yves Simoneau avec Treat Williams, Kim Cattrall et Saul Rubinek. Jeudi, un film qui explique comme quoi on peut être un excellent réalisateur et faire des bouses également. C'est Contact de Robert Zemeckis de 97 avec Jodie Foster, Matthew McConaughey.
Il se laisse regarder.
Et James Woods.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, mais bon.
Et puis il y a Adolf Hitler qui est de retour.
Vendredi, l'émission qui copie, qui est faite par le Julien Courbet du pauvre. On va tout vous dire. La justice, c'est vous. Piège et abus commencent à sortir vendredi prochain à 20h40 sur NT1. Et par contre, vendredi prochain, il y a quand même pas mal de trucs à regarder parce que sur TPSI Extrême, de 21h à 1h50, la trilogie Dead or Alive de Takashi Miike. Attention, que lui, il a pas de grandes oreilles, mais hein, il fait mal. Hein.
C'est clair. Premier, c'est un polar. Vous ratez pas la fin surtout. Même le polar est chiant, mais la fin. Voilà.
Sans commentaire. Et du sport qui a fini ou quoi ?
Bah ouais.
Ah pardon.
Vendredi prochain, voilà.
Tu as pu laisser l'autre, hein, il était mieux.
Oh bah non, bah attends, mince, je peux essayer que je peux et moi ça me permet de libérer le lecteur CD et puis voilà. Radio FMR, bonjour, tout va très bien. Non, on s'engueule pas du tout. C'était le supplément week-end de Radio FMR sur 89.1 MHz. Qu'est-ce que vous avez manqué? C'était l'émission numéro 91, si je me trompe. Qu'est-ce que vous avez manqué depuis le début? Thomas, s'il te plaît, peux-tu en faire un résumé pour nos amis qui nous prennent en cours de route?
Alors, le procès-verbal de l'émission, il y a eu un top 5 des lecteurs de première, il y a eu deux nécrologies, un enregistrement censuré de Rascal à la burne coincée, après avoir spoilé 24, la saison 5 du sport s'est fait blâmer en direct, et il y a eu une alerte cul.
Donc, je tiens à confirmer, ce n'est pas une rumeur, Rascal a bien au moins une burne. Voilà. Ceci dit, la suite des programmes sur Radio FMR du sport va venir me rejoindre tout de suite et va vous parler de sport, bien évidemment, et de musique. À 15h, c'est du reggae avec Zarma Farai, 17h, Big Bang, 18h, du punk et des faits divers, vie d'ordure, 19h, Happy World, et n'oubliez pas les cahuètes, le petit vin blanc, et vous pouvez appeler à la station, et à 20h, 21h30, l'extrait de l'électro bien barré avec la Cetero Experience, et n'oubliez pas qu'FMR fête ses 25 ans, et que pour cela, la semaine prochaine, Supplément Week-end aura le plaisir d'avoir reçu, ce sera préenregistré, puisque vendredi prochain il est à la librairie Album, Mandrika, l'auteur du Concombre Masqué, dont le nouvel album est sorti après, oula, pratiquement 20 ans d'arrêt si je me trompe. Il s'appelle Bain de Minuit, il est sorti chez Dargo et je ne sais plus d'ailleurs, enfin voilà quoi. On va se faire un plaisir, il est en dédicace le vendredi 17 novembre, album à partir de 15h, et c'est le jour de la sortie donc de cet album qui sort 15 ans après le précédent, et puis voilà.
Ah ouais, mais tu l'as déjà toi, comment ça se fait?
Et une attachée de presse qui m'aime bien, quand même, mine de rien. Voilà, see you, ciao, rendez-vous la semaine prochaine, et de suite je cède la place à du sport, et n'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur le site internet à la radio, www.radio-fmr.net.
Bon week-end.
Ciao.